C'est l'heure du LEM sur Transistor, un LEM sport qui nous emmène à Sarrivoil.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Le LEM Sport, une fois par mois sur les ondes de Transistor, on part dans les Monts d'Arrée, direction l'écomusée de Sarrivoil qui prépare un événement et son nom dit quasiment tout. C'est le Festival des Jeux et Sports Bretons qui revient pour une quatrième édition. Il est prévu le 27 juillet prochain. Un rendez-vous festif, patrimonial et sportif aussi. Et pour en parler, nous serons avec Brendan Petit, médiateur à l'écomusée et cheville ouvrière de ce festival. Bonjour Brendan.
Bonjour.
Et nous serons aussi avec Hugo en visio. C'est donc le moment où nous te retrouvons, Hugo, pour l'actualité des clubs bretons.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Transistor. Vous écoutez les évadés du sport, votre flash autour de l'actualité sportive bretonne. Au sommaire de ce dernier flash de la saison, la descente en Pro D2 de rugby du RC Vannes, les Béliers de Quimper qui préparent leur retour en Pro B de basket, et enfin, nous aborderons la relégation des filles du Quimper Volley en Ligue Élite. On débute ce flash avec le rugby. Un an après une première montée historique dans l'élite française du rugby, le top 14, le RC Vannes, redescend en Pro D2. Une relégation cruelle, tant les hommes de Jean-Noël Spitzer n'ont jamais renoncé à leurs principes de jeu et leurs valeurs de solidarité tout au long de la saison. L'appui d'un public morbihanais, très fervent, au stade de l'Arabine, a également marqué l'ensemble des observateurs et acteurs du championnat, comme les coachs adverses de Bordeaux et Clermont, Yannick Gru et Christophe Furios. Le RCV voudra donc se relever très vite la saison prochaine et jouer les premiers rôles en seconde division dans l'espoir de regoûter prochainement au top 14. L'humilité sera pour autant le maître mot, alors que des clubs comme Agen et Brive ont pu avoir toutes les difficultés du monde à quitter l'antichambre de l'élite après l'avoir retrouvée durant les dernières années. Pour atteindre ses objectifs, Vannes a déjà prolongé plusieurs joueurs cadres ou espoirs, comme le centre néo-zélandais Francis Sailly ou le pilier argentin Santiago Medrano. Nous suivrons le retour à la compétition du RCV dès la fin août. Place au basket. Après avoir raté sa remontée en Pro B, 2 ans après l'avoir quitté, les Béliers de Quimper structurent déjà leur effectif tout en se renforçant. Le capitaine suisse Noah Burel, homme clé du succès de cette saison, a prolongé son contrat jusqu'en 2027 et pourra continuer de dominer le secteur extérieur de l'équipe. Joël Awish, virevoltant offensif, est de retour au club après une saison au Havre. Ce sera la découverte de la Pro B pour beaucoup de joueurs de Dibo Voljiki. Pour le moment, la recrue phare du club est le meneur américain Terrell Gomez, très tonique, dont ses anciens coachs disent qu'il a un bras unique. Il devra améliorer le secteur offensif des Quimperois. Il a déjà réussi ce pari à Roanne en Pro B en 2024. L'UJAP disputera un match de préparation contre Fougères le 15 août à la salle Michel Grouagin avant de basculer quelques mois plus tard dans la nouvelle salle quimperoise de l'Eau Blanche. Parlons désormais volley. Les joueuses du Quimper Volley descendent en seconde division la Ligue Élite. Après 2 saisons en Liga, le bilan doit être fait à froid pour comprendre les raisons de cette relégation, qu'il s'agisse des joueuses, du staff ou des dirigeants. Le coach François-Xavier Garnon dit qu'il est trop tôt pour évoquer des objectifs précis et l'ensemble du QV retient la frustration d'une saison qui aurait mérité un meilleur résultat, mais malheureusement, la régularité n'était pas au rendez-vous. Même si, en d'autres temps, 8 succès auraient suffi pour se maintenir en Liga, Julie Hainaut, ancienne joueuse capitale de Bordeaux, est la première recrue d'un effectif à reconstruire d'ici septembre pour la reprise du championnat. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau flash des évadés du sport. On se retrouve tout de suite avec Pierre-Yves et notre invité.
De retour en studio avec Hugo qui est aussi avec nous. On tente la connexion avec Cognac Jet. Est-ce que tu nous entends, Hugo ?
Salut à toutes et à tous. Salut Pierre-Yves, salut à notre invité.
C'est bon, ça marche. Et nous retrouvons aussi notre invité, Brendan Petit, de l'écomusée des Monts d'Arrée, pour discuter du Festival des Jeux et Sports Bretons et Sports Bretons qui revient pour une 4e édition, prévue donc le 27 juillet prochain. Alors Brendan, peut-être pour commencer, rappeler l'idée de ce festival et pourquoi l'avoir lancé en 2021.
Oui, effectivement. Alors, ce festival est né en 2021. Alors, c'était suite à une longue réflexion. En fait, l'Écomusée avait contribué à l'inventaire, je vais la faire rapide, mais participatif du PCI en Pays COB, donc patrimoine culturel immatériel, coordonné à l'époque par Bretagne Culture Diversité. Et ça nous avait permis d'identifier un petit peu un déclin important du nombre de clubs, de détenteurs et des occasions un peu de transmission de ces jeux et de ces différents sports. Et donc, on s'était dit que ce serait peut-être pertinent de proposer un événement qui puisse rassembler différents jeux, différents sports, différentes disciplines. Mettre un petit peu tout ce monde-là ensemble et puis proposer aux différents visiteurs de s'initier, de découvrir ou de redécouvrir pour certains différents jeux, que ce soit des jeux d'adresse, de force ou autre, quoi.
C'est des jeux qui ont été qui sont recensés à travers une structure. Il y a quelqu'un, une association qui référence un peu tous ces jeux, qui les a codifiés aussi.
Alors il y a un historique de la codification des jeux sport breton qui est assez longue, qui remonte. On pourrait remonter à la FALSAB, à la création de la FALSAB.
Qu'est-ce que c'est?
Donc la Fédération athlétique de lutte et des sports athlétiques bretons. Fédération, il y a un O qui m'échappe, mais de lutte et des sports athlétiques bretons.
Voilà. Ok, on voit un peu l'objet.
On voit l'idée. Et puis, depuis quelques années, c'est la Fédération des jeux et sports bretons reprend un petit peu cette mission et qui commence à rassembler, à collecter énormément d'informations sur ces jeux et sports, et puis surtout qui propose énormément d'initiations, de transmissions auprès de différents publics, puisque l'idée de ce patrimoine, comme de tous les patrimoines, c'est bien sûr de le préserver, mais surtout de le transmettre. Et la Fédération des jeux sport breton, justement, forme des moniteurs, fait énormément d'interventions dans différentes structures, que ce soit scolaires ou autres. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer ces disciplines, ces jeux, ces sports, ces patrimoines au plus grand nombre.
Tu avais peut-être une question dans ce sens-là, Hugo, non ?
Oui, justement, on voit qu'il y a une grande diversité d'activités, de découvertes culturelles qui sont proposées. Comment est-ce que vous les avez sélectionnées? Et dans quelle optique ces sélections se font? Et la question qui vient en parallèle, c'est est-ce que vous-même, vous avez un rapport spécifique avec certaines pratiques ou vous êtes plutôt en observateur et en organisateur uniquement?
Alors, la sélection, en fait, se fait. La toute première année, on s'était demandé quels étaient un peu les jeux et sports emblématiques que l'on voulait représenter. Et donc, il y avait plusieurs disciplines qui nous venaient en tête. Bien sûr, le gouren, la lutte bretonne, qui était qui est un peu notre sport quand même un peu national en Bretagne. Tous les jeux de force traditionnels qu'on retrouvait traditionnellement à l'occasion des pardons, tout ce qui était levée de perche, soulevée de civière, etc. Ça, c'était des choses vraiment.
Il faudra qu'on y revienne sur le levée de civière.
Ça, c'est un des grands classiques. Ouais. Et puis, bien sûr, les jeux d'adresse, et puis beaucoup de jeux d'adresse aussi qui commençaient à disparaître ou alors à être un petit peu effacés. Par exemple, on pourra en reparler peut-être tout à l'heure, mais cette année, on voulait présenter également du palais sur terre. C'est vrai que maintenant, on entend souvent parler du palais breton pour parler du palais sur planche, qui est en réalité a des origines un petit peu plus à l'est de la Bretagne, plutôt en Haute-Bretagne, plutôt du côté de Rennes. Et la popularité, en fait, la facilité d'accès aussi à ce palais-là a plu certainement à certains industriels. Et puis, ça marche très bien. On a tous un jeu de palais à la maison qu'on peut sortir à l'occasion des fêtes d'été. Et ça a pu peut-être avoir tendance à effacer d'autres pratiques de palais qui, traditionnellement, avaient leur place, une place prépondérante sur le territoire, quoi. Et donc, on voulait aussi, la sélection s'est aussi faite dans ce sens-là. On voulait vraiment remettre à l'honneur ce qui pouvait commencer un petit peu pas à disparaître, parce qu'il y avait toujours quand même quelques passionnés, mais peut-être à perdre cet aspect populaire, quoi. Donc, on a vraiment à cœur de faire découvrir et redécouvrir ces disciplines.
Et vous, on imagine que vous faites partie de ces passionnés, c'est même certain, avec votre enthousiasme aujourd'hui, mais est-ce que vous avez des pratiques qui ont jalonné un peu votre vie sportive ou Est-ce que vous êtes un peu un touche-à-tout de ces sports et de ces pratiques que vous allez mettre en valeur?
Moi, à titre personnel?
Ouais.
Ouais, alors moi, bon, j'ai commencé mon tout premier sport, ça a été le gourène, hein, quand j'étais enfant, je devais avoir 6-7 ans quand j'ai commencé le gourène. J'en ai fait pendant quelques années et je reste un passionné, je suis d'assez près le gourène. Mais tous les jeux de force aussi, tout ce qui est le lever de perche, je trouve ça très intéressant. Puis le patrimoine qu'il y a derrière est très intéressant. On aura peut-être l'occasion d'y revenir.
Ben, allons-y, parce que le lever de perche, effectivement, on connaît le saut à perche.
Ouais. Alors le lever de perche, c'est très intéressant, parce que c'est une discipline alors qui en général qui met le feu aux foules à l'occasion des championnats, parce que c'est assez impressionnant. Donc le but, on a une perche qui est sur le sol, et puis on va mettre un lest. Là, ça, c'est la version contemporaine, hein, que j'explique, que je présente. Donc, on va mettre un lest au bout, de plus en plus lourd. Et le but est de réussir à la lever pour la mettre à la verticale, quoi. Et donc, forcément, le challenge est de plus en plus élevé. La perche est de plus en plus lourde. Et puis, traditionnellement, il y a toute une histoire derrière, puisqu'on trouvait les concours de levée de perche, comme ça, à l'occasion des fêtes populaires, à l'occasion des pardons, notamment. Ouais. Et à l'époque, autrefois, en fait, chaque compétiteur, concurrent, emmenait sa perche, avec l'idée d'avoir la perche la plus longue et la plus lourde possible. Voilà. Donc, et le but était d'être capable de lever la perche de tous les autres concurrents. Et donc, celui qui était le plus fort, finalement, qui arrivait à lever toutes les autres perches, remportait le challenge, puisqu'à un moment donné, eh bien, il y en avait forcément. Qui avait une perche plus lourde que celle des autres. Parce qu'il y a un mais, en termes de logistique, imaginez la chose, c'est-à-dire qu'on voyait des gaillards se trimballer dans le bourg avec des perches de 5 mètres en bois, lourdes, longues, et donc chacun devant transporter sa perche, c'était pas toujours facile. Ce qui peut-être expliquer que, à un moment donné, ça a commencé à.
Ouais, c'est la disparition on imagine, de ces compétitions qui devaient aussi se dérouler dans un cadre plus informel qu'autre chose, quoi.
Pas forcément informel, puisqu'à l'occasion des pardons, justement, ça pouvait être assez codifié.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est des pratiques alors qui n'ont jamais complètement disparu, mais qui étaient très répandues à un moment donné, et puis qu'on retrouve. Qui, à partir des années 60, 70, ont pu commencer redescendre un petit peu. Et là, avec finalement le fait de codifier, d'avoir d'étalonné les perches, d'avoir des poids bien précis, et puis de pouvoir, en fait, on emmène une seule perche.
Ça, c'est breton, il n'y a pas d'autres pays qui ont. Si on va du côté des pays gaéliques ou.
Ouais, alors bien sûr. Alors, les jeux de force, de toute façon, il faut être clair, on va en trouver partout dans le monde. Hein, les jeux de force, il y a vraiment, je crois que partout. Les humains aiment bien se confronter aux autres et savoir qui est le plus costaud. Donc, on va trouver des pratiques de jeux de force partout dans le monde. On pense, par exemple, les fameux Highland Games là qui sont très populaires, ou les lancers de troncs, les choses comme ça. Mais le lever de perche, il existe de plusieurs façons. Traditionnellement, en Bretagne, on va avoir le lever de perche sur le côté. Donc, la perche va être disposée posée sur la hanche sur le côté. Après, on voit d'autres pratiques parfois avec la perche justement entre les jambes, entre les genoux. Voilà, c'est différentes techniques. Mais c'est vrai que nous, on va présenter la forme avec le lever de perche sur le côté. Et ce qui était intéressant, c'est que souvent, le champion de lever de perche était ensuite réquisitionné par la suite. Pourquoi? Pour devenir porteur de bannière. Parce que pour ceux qui ont pu participer à des pardons, il y a souvent une procession. Avec les grandes bannières qui sont très lourdes.
C'est ça, c'est un poste sujet à des troubles musculo-squelettiques.
Exactement, c'est un poste sujet à des troubles musculo-squelettiques et il faut une armature quand même assez costaud pour pouvoir. Alors maintenant, souvent, on va proposer aux gens de se relayer ou d'avoir 2-3 costauds. Là, on en sélectionne 2-3 pour pouvoir porter les bannières et se relayer. Mais c'est vrai que traditionnellement, c'était bien souvent le champion de levée de perche qui allait pouvoir porter la bannière, quoi.
Le 27 juillet, sur cette journée, il y a un esprit familial, festif, patrimonial, mais il y a aussi un côté sportif aussi, dans le sens où il y a quand même un petit côté compétition.
Ouais, bien sûr. Ben, en fait, on se rend compte que dans ce patrimoine, il y a un petit côté compétition exaltant et les gens se prêtent énormément au jeu. Et nous, ça nous tenait à cœur, justement, dans le cadre du championnat, de pouvoir proposer un championnat type type mot de cause à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'inscription au préalable. Et on arrive, si on a envie de défier d'autres concurrents, on se pointe. Et,
Parce que le championnat, c'est sur plusieurs épreuves ou
C'est sur deux épreuves principalement, c'est-à-dire le lever de perche, justement. Donc, il y a, dans un premier temps, on a les membres de la Fédération des Jeux Sports Bretons qui sont présents, qui forment les participants. Et on leur montre les gestes techniques, les bonnes postures pour ne pas se blesser, bien sûr, parce que ça reste une épreuve de force. Et donc, ça va être sur le lever de perche et le soulevé de civière. Qui est une épreuve aussi qui plaît beaucoup en général.
C'est quoi le principe? Ça marche comment? Parce qu'avec Hugo, en préparant l'émission aussi, je crois que ça t'a interpellé.
On s'est arrêté forcément dessus parce que ça interpelle, comme tu dis. Et puis, on se demande un peu en quoi ça consiste. Et surtout, est-ce qu'il y a une hiérarchie un peu dans ce qui est le plus spectaculaire, dans ce qui a le plus attiré les foules un peu pour le moment lors des dernières éditions, ou c'est assez équilibré entre la perche et la civière, par exemple?
Alors justement, ces deux épreuves qui sont très complémentaires, parce que c'est deux épreuves de force, mais qui demandent quand même pas mal de techniques, c'est des profils souvent qui peuvent être un peu différents. Il faut être assez costaud pour les deux. Le lever de perche peut être très technique. Et on va voir des gabarits, on va voir des femmes notamment, parce qu'il y a une section féminine également qui participe, qui s'en sortent très bien justement parce qu'elles ont bien compris les systèmes de levier, de technique, et du coup vont justement grâce à cela réussir à lever des perches relativement lourdes, quoi. Le soulevé de civière, c'est impressionnant parce que ça ressemble un petit peu, alors pour ceux qui font un petit peu d'haltéro ou des choses comme ça, ça pourrait ressembler un petit peu à un soulevé de terre. Donc l'idée, en fait, on a une civière qui est coupée en deux avec deux poignées et on va mettre de plus en plus de charges dedans, donc des grosses pierres qu'on va charger. Et l'idée, c'est de pouvoir saisir les poignées et de soulever la civière.
Non, il n'y a pas de malade.
Il n'y a pas de malade dedans. Non. Mais parfois, c'est arrivé qu'on est tellement costaud qu'on commence à être à court de poids, quoi.
Donc, on rajoute des gens.
On met des morceaux de rails, de chemin de fer, des choses comme ça. Donc on met de plus en plus lourd. Et le but, pareil, c'est que si à chaque fois qu'il y a un concurrent qui arrive à soulever la civière, les autres concurrents essayent également d'arriver à ce poids. Donc on est sur une surcharge progressive. Mais c'est vraiment intéressant. Et puis, comme on commence toujours relativement léger, tout est relatif, mais relativement léger, vraiment tout le monde peut participer, quoi. Ceux qui ont envie de participer au championnat peuvent commencer, faire les 4-5 premières manches. Et puis ensuite, quand ça commence à être trop lourd, qu'ils sentent qu'ils ne peuvent plus, ils arrêtent.
Ils commencent à avoir mal au dos.
Normalement, l'idée, s'ils sont bien formés, c'est que justement la technique devrait empêcher justement d'avoir trop de douleurs. Mais c'est vrai que sur ces deux épreuves-là, on a vu le public en général est à fond derrière les champions, parce qu'il y a les champions et les championnes, quoi, parce qu'il y a un vrai challenge quand même, quoi.
On a vu qu'il y avait des catégories juniors avec sans doute une partie des compétitions destinées aux enfants.
Oui.
Est-ce qu'il y a au cours de l'année des process un peu d'initiation pédagogique aux différents sports, aux différentes pratiques? Est-ce que vous êtes en lien par exemple avec les écoles ou pas du tout?
Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors justement avec les fédérations, on propose, les médiateurs de l'écomusée dont je fais partie ont été formés à l'initiation aux jeux et sports bretons. Et donc on propose pour les écoles, nous, des ateliers d'initiation aux jeux et sports bretons. Et donc effectivement, on essaye vraiment de se faire aussi un relais de cette transmission de patrimoine, quoi. Donc effectivement, on reçoit pas mal de scolaires. Et puis on propose dans notre programmation estivale également à l'attention du grand public des initiations. C'est un mardi sur deux quasiment, je crois, qu'on propose ce type d'atelier pour le grand public, quoi. Donc ceux qui veulent se préparer au championnat peuvent venir nous voir en amont et on peut les entraîner à performer par la suite pour le festival du 27.
Vous l'avez expliqué un peu tout à l'heure, le bourène est une sorte de locomotive parce que C'est un sport véritablement reconnu historiquement sur le territoire. Il est souvent pratiqué, parfois même à l'école primaire, en initiation. Comment se porte le Gouren aujourd'hui? Est-ce qu'il a toujours ce statut un peu particulier, entre guillemets, vedette?
Je ne sais pas si je serais bien placé pour en parler. Alors, le Gouren, je pense, reste quand même un fer de lance du sport traditionnel en Bretagne, ça c'est évident. Je pense, là c'est plus en tant qu'observateur, hein, qu'il y a eu aussi un aspect. En fait, maintenant, la pratique du Gouren se fait vraiment de manière, j'allais dire, sportive, dans le sens où on voit une saison comme il pourrait y avoir pour tous les sports, c'est-à-dire une saison de septembre à juin, avec des compétitions qui vont se dérouler plus forcément l'été, justement. Et donc, on voit toujours du Gouren, bien sûr, sur les grands événements patrimoniaux, hein, mais effectivement, j'allais dire, c'est pas victime de son succès, mais c'est.
Une modernisation, en fait.
On est sur une modernisation des pratiques, en tout cas, quoi. Mais je pense que ça reste un sport, une discipline vraiment qui est une discipline emblématique. Alors, c'est vrai que cette année, justement, nous, il n'y aura pas de Gouren cette année au festival, parce qu'on voulait faire un focus, justement. On s'était dit que c'était intéressant d'avoir des. Un petit peu des thèmes, et on voulait faire un focus un petit peu plus sur les jeux d'adresse. Donc on a proposé quelques autres activités, mais c'est certain que pour les prochaines éditions, on en reproposera de nouveau, bien sûr.
Alors il y a un sport aussi qui est présent sur cette journée, à ne pas confondre, j'ai failli faire tout à l'heure ne pas parler j'ai failli parler de lancer de civière, mais non, c'est du lancer de hache et de couteau.
Ah, lancer de civière, il faut quand même être balèze là. Mais lancer de hache et de couteau, alors ça c'est intéressant d'en parler parce que c'est une pratique, ça c'était, alors je reviens même aux origines du festival, ça nous tenait à cœur aussi, on voulait présenter les jeux et sports traditionnels, mais aussi toutes les disciplines émergentes qu'on va trouver en milieu rural, les pratiques qu'on va trouver en milieu rural, quoi. Et il se trouve que la Bretagne est quand même assez riche en différents clubs de lancer de hache et de couteau. Et c'est une pratique qui est de plus en plus populaire, qui se développe beaucoup, particulièrement en milieu rural. Et assez, somme toute, justement, assez... assez inclusive, on va voir beaucoup de. Alors, il y a pas mal de femmes qui sont assez mordues de cette discipline. C'est vrai que quand on imagine un lanceur de hache, certainement on a en tête une sorte de Golgoth type scandinave un peu là. Mais non, c'est vraiment une discipline. On s'en était rendu compte dès la première édition, une discipline qui a énormément plu à tous les publics. Et donc, c'est organisé là par les Korrigans du Vic qui sont des partenaires de longue date. Et qui ont vraiment une pédagogie, une approche de leur discipline qui est extra. Ils proposent énormément de choses. Il y a vraiment une fluidité. Ils sont très très pédagogues. Et cette année, en plus, justement pour toujours élargir un petit peu les publics qui peuvent avoir accès à ces disciplines, ils proposent une aire de jeu spécifique pour les plus jeunes, quoi. Vraiment. Avec un système de petites haches à scratch très sécurisé. Voilà. Donc les enfants pourront aussi s'initier justement à cette discipline.
En toute sécurité.
En toute sécurité, bien sûr.
Sur cette journée du 27 juillet, il y aura évidemment plein de démonstrations où chacun pourra essayer de tenter de participer. Il y a aussi tout un. C'est un petit village qui se transforme en lieu de fête, quoi.
C'est un petit peu ça, ouais. L'idée, c'est vraiment d'avoir différents pôles un petit peu partout où chacun peut, entre amis, en famille, aller choisir ce qui lui plaît. Et puis l'idée, c'était vraiment aussi d'avoir cet aspect transgénérationnel, quoi. Ça, c'est un des points sur lequel on a voulu insister cette année. On propose un champ des jeux en bois, justement, dans le grand champ du marché, qui est juste derrière la maison Cornec. Et c'est un grand espace qu'on voulait consacrer donc à des jeux d'adresse, de réflexion, de coopération, qui ont été librement inspirés ou adaptés, en fait, de jeux traditionnels ou de jeux forains. Par une association qui s'appelle les Jeux de Fred. Donc ça fait quasiment 20 ans hein, qui crée des jeux en bois comme ça. Et là, il y a plus de 40 jeux qui vont être proposés. Et c'est vraiment intéressant parce que sur ce type de jeu, on voit bien que c'est des jeux... par exemple, les grands-parents connaissent... C'est des classiques quelque part, les grands-parents connaissent les règles. Et avec les petits-enfants, ils leur montrent, leur font découvrir. C'est vraiment un espace qui est dédié vraiment voilà, à la collaboration, coopération, etc.
Au niveau de l'écomusée...
Dernière question, Hugo, parce que là...
L'organisation de l'événement, est-ce que vous avez des objectifs précis en termes de nombre de visiteurs ou est-ce que vous avez des ambitions pour la journée du 27 juillet?
Ah, alors, nos ambitions là-dessus, déjà, c'est que tout le monde passe un super moment. Au niveau des visiteurs, on espère accueillir en général, on est entre 350 et 500, 600 personnes selon les années. Et puis, j'allais dire, surtout selon la météo, puisque nous sommes soumis à cette aléa. Mais en général, pour l'instant, on a eu relativement... on a été assez chanceux là-dessus. On a eu toujours un temps tout à fait agréable pour ce type de pratique. Donc, on espère que cette année sera dans cette lignée-là. Donc voilà, au niveau à peu près de ce qu'on attend. Mais on attend surtout, effectivement, plus on aura de monde, plus on pourra transmettre ces patrimoines et plus les gens pourront participer et découvrir toutes ces pratiques. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Brendan. On donne rendez-vous aux auditeurs donc, pour le Festival des Jeux et Sports Bretons à Saint-Rivoil, à l'Écomusée, donc prévu le 27 juillet prochain.
Je voulais juste rajouter un dernier petit détail qui est une exclusivité de cette année. C'est qu'on a pris le parti de faire la gratuité pour les moins de 18 ans. Voilà, puisque toujours dans cette logique de pouvoir accueillir le plus grand nombre possible. C'est vrai que pour une famille, parfois, ça peut être un petit coup, même si l'entrée du festival est simplement à 5 euros. Mais on s'était dit, effectivement, quand on arrive avec plusieurs enfants, des fois, ça peut commencer à faire un coup. Donc, gratuité pour les moins de 18 ans.
Voilà. Eh bien, parfait. Le message est passé. Et merci, Hugo. On se donne
rendez-vous. Merci,
Hugo. On se donne rendez-vous l'année en septembre prochain pour prochain numéro du LEM Sport.
À la rentrée.
LEM, l'émission sur Transistor. Creusez le Finistère, labourez les circuits courts, plongez au fond.